mode d'emploi.
Bonsoir, vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel 106.3, l'émission Mode d'emploi, l'émission des chômeurs et des précaires, avec ce soir des membres du journal Le Piaf et des altermondialistes de Attaque.
Et bonsoir, et pour commencer comme d'habitude, les chroniques d'actualité de JMJ, qui va nous commencer, c'est la nouvelle année, par les vœux.
Alors on va faire les vœux, pas ceux du président, ils étaient très très mignons, mais on va faire un peu moins mignon, on va parler de ceux du Front de Gauche, qui a fait une très très belle vidéo de critique de François Hollande, avec des extraits des discours de la campagne de François Hollande, interrompus par des rires, et par des commentaires écrits qui malheureusement étaient tous vrais. Tous hélas vrais, et c'est bien le problème de François Hollande et des ténors du Parti Socialiste, puisqu'il est impossible d'opposer un démenti formel à cette vidéo, il n'y a rien que d'exact, des vraies paroles de discours de la campagne et des vrais manquements de réalisation dans cette première année de pouvoir soi-disant socialiste. Alors, que répondre en effet pour les socialistes à cette vidéo ? Est-ce que Hollande a attaqué les banques ? Ben non, il y a une demi-réforme, un quart de réforme des banques qui ne conduit à rien. S'est-il attaqué à la finance ? À rien du tout. A-t-il combattu les paradis fiscaux ? Il n'en a même pas été question. A-t-il réussi à juguler le leadership d'Angela Merkel et d'imposer des voies plus socialistes à l'Europe ? Point du tout non plus. Il s'est affalé devant Angela Merkel, comme tous ses prédécesseurs, avec les dirigeants allemands. Y a-t-il une réforme des impôts ? Oui. Est-elle véritablement sociale ? On en peut en douter. Et encore plus après que le Conseil constitutionnel a retoqué la fameuse mesure des 75%. Bref, des vœux qui sont très sympathiques, mais qui ne mènent à rien. On constate que la politique générale n'a pas changé, ni sur les sans-papiers, ni sur la politique sociale, ni sur le dégraissage de la fonction publique, et bien sûr sur les petites magouilles politiciennes, comme Notre-Dame-des-Landes, qui continue de plus belle, alors que c'était l'un des engagements du candidat Hollande de mettre un terme à cette pantalonnade.
Et ce n'est donc pas avec des vœux qu'on fait du neuf. Hein. C'est un très bon titre, n'est-ce pas Patrick ? Alors on enchaîne toujours sur les chroniques d'actualité. On va parler du bâtiment.
Alors le vieil adage, c'est que quand le bâtiment va, tout va. Or, justement, c'est l'un des problèmes en France actuellement, c'est que le bâtiment ne va pas très très bien. Il y a des annulations en cascade par milliers de projets de construction des promoteurs. Ça ne nous fera pas forcément pleurer au niveau esthétique. Ça ne nous fera pas pleurer sur les promoteurs, mais c'est quand même inquiétant pour l'économie en tant que thermomètre de cette économie. Par ailleurs, autre catégorie qui ne nous fera pas pleurer parce que c'est une catégorie qui s'en est mis plein les fouilles depuis 25 ans, c'est la catégorie des agents immobiliers et autres marchands de biens. Leur principale fédération, la FNAIM, lance un signal d'alarme au gouvernement. Ils envisagent 10 000 à 15 000 suppressions de postes en 2013, compte tenu du ralentissement des ventes, qu'il s'agisse du neuf ou de l'ancien. Alors bien sûr, ils ne parlent pas encore de baisse des prix, ce serait trop beau, mais par contre, ça veut dire qu'on a encore un pan de l'économie qui risque de s'affaisser et de coûter très cher aux contribuables. Coûter très cher aux contribuables, ça veut dire que si les ventes diminuent, ça veut dire que les droits de mutation diminuent également et que ça fait des recettes en moins pour l'État au moment où justement on est en train de racler les fonds de tiroir. Alors, pourquoi cette crise ? Les acheteurs se font rares, disent les agents immobiliers. Et pourquoi se font-ils plus rares ? Bah, d'abord parce que les prix sont délirants. Et il faut remarquer que ce gouvernement, pas plus que les gouvernements qui l'ont précédé pendant 30 ans, n'ont rien fait pour essayer de réguler ce marché de l'immobilier qui est complètement fou. En l'espace de 20 ans, les prix ont été multipliés selon les zones par 2, 3 ou 4. Et malheureusement, pas les salaires dans le même temps. Et on peut même dire que dans le même temps, les salaires ont stagné, voire régressé dans nombre de professions. Donc il n'y a plus du tout adéquation entre les revenus des citoyens et leurs possibilités d'achat. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème vient des banques. Les banques qui, après avoir semé la crise et le trouble partout en 2008 avec leurs spéculations, notamment des spéculations immobilières aux États-Unis, eh bien les banques qui se sont fait renflouer par l'État, aujourd'hui jouent un jeu très dangereux vis-à-vis des particuliers et des entreprises puisqu'elles refusent du crédit. Donc beaucoup de gens voudraient acheter, pourrait encore acheter, mais ne trouve plus de crédit, alors qu'il y a 5 ans, avec les mêmes revenus, ils auraient eu du crédit dans des proportions peut-être même supérieures. Ceci est valable pour l'immobilier donc privatif, mais aussi pour l'immobilier d'entreprise, ce qui veut dire que les banques, après avoir ruiné une première fois les économies par leur spéculation, sont en train de ruiner une deuxième fois l'économie en fermant le robinet du crédit.
Alors on va changer complètement de thème parce que nous venons d'apprendre une nouvelle inquiétante. Le décès du multimilliardaire Mittal. Alors, et je crois que tu as des infos de l'au-delà, je crois.
Oui, de dernière minute, Lakmé Mittal, ce cher monsieur qui est donc le grand patron de l'acier mondial indien, comme chacun sait, et qui s'est offert Florange et d'autres aciéries en Europe, vient de mourir. Et comme il a la conscience tranquille, comme tous les grands patrons du monde, il a osé se rendre directement chez Saint-Pierre, avec son chauffeur quand même, parce que c'est pas n'importe qui. Et il a demandé son admission au paradis. Le problème, c'est que Saint-Pierre n'est pas Jean-Marc Ayrault, il ne croit pas les promesses de Monsieur Mittal, et donc il a décroché tout de suite son téléphone pour appeler la sécurité et le renvoyer chez Satan. Et Satan était bien obligé de le recevoir, et ça s'est mal passé. Au bout de 3 semaines, Satan a été obligé de rappeler Saint-Pierre et de lui demander de reprendre Mittal, parce qu'il n'en peut plus, c'est pas une vie pour un diable, Mittal avait déjà éteint 3 fours.
Alors, nous sommes dans l'actualité brûlante, et une actualité brûlante internationale, et c'est Alex qui va nous parler de cette drôle de guerre au Mali.
Voilà, on reparle à nouveau du Mali en ce moment, parce que comme vous le savez peut-être, sans doute, des groupes islamistes armés viennent de prendre la ville de Kona au centre du Mali, mettant fin par là même à la paix précaire qui s'était installée. Alors la réaction de la France a été immédiate, Hollande l'a affirmé, la France se tient prête à arrêter l'offensive des terroristes si elle devait se poursuivre. Est-ce qu'on va pour autant partir en guerre? C'est pas évident. Pour comprendre ce qui se joue en ce moment, il faut revenir un an en arrière. Au printemps 2012, des rebelles Touaregs alliés à des mouvements islamistes ont pris en quelques semaines l'ensemble des villes du nord du Mali, en mettant en déroute l'armée régulière avec une facilité assez déconcertante. Depuis, le pays est coupé en deux. Au nord, la situation est complexe. Chaque composante de la coalition poursuit en effet ses propres buts. Les rebelles du MLNA, alors MLNA c'est le Mouvement de Libération Nationale de l'Azawad, veulent l'indépendance du nord Mali, majoritairement berbère, tandis que les islamistes cherchent avant tout à imposer la charia. Au sud, on a assisté à une succession de crises politiques. La junte militaire qui avait renversé le président élu au moment de la défaite a laissé la place à un gouvernement de transition. Au bout de quelques mois, ce gouvernement a été également déposé par les militaires qui ont choisi de remettre en place un nouveau gouvernement de transition censé aller jusqu'aux élections prévues au printemps. Alors, entre le nord et le sud, une curieuse paix s'était installée. Les troupes maliennes n'ont pas les moyens seules de reconquérir le nord, mais rêvent de revanche. Les rebelles du MLNA veulent conserver le statu quo. Et leurs alliés islamistes voudraient, eux, faire du nord Mali un Sahélistan. Un nouvel Afghanistan au milieu du désert où s'enliseraient les puissances occidentales. Les États autour sont inquiets des conséquences possibles de cette situation. Et avec la bénédiction de l'ONU et des puissances occidentales, se sont engagés à intervenir militairement pour rendre au Mali son intégrité territoriale. Mais cette intervention tarde à arriver et ne pourrait avoir lieu, en tout cas c'est ce qu'on disait il y a encore quelques semaines, que dans pas mal de mois, plutôt l'hiver prochain ou l'automne prochain. Et l'urgence pour les représentants de la CDAO, c'est-à-dire les communautés économiques des États d'Afrique de l'Ouest, semble aujourd'hui de rétablir le dialogue pour arriver à un compromis. Mais pour les centaines de milliers de réfugiés ayant fui le Nord, la situation est catastrophique. Ils ne survivent que grâce aux aides fournies par les ONG. Et quant au compromis qui pourrait voir le jour, un Nord Mali très autonome et dominé par les Touaregs où la charia remplacerait le code civil, il risque de ne pas plaire à la majorité des Maliens. C'est dans ce contexte que les djihadistes ont repris l'offensive. Coup de bluff ou réelle volonté d'étendre le conflit, difficile à dire. Les représentants du MLNA ont tout de suite réaffirmé leur volonté de négocier. Une chose est sûre, c'est que pour les djihadistes qui viennent du monde entier pour se battre au Mali, l'occasion est belle de provoquer les grandes puissances occidentales et la France en particulier.
À suivre. Nous avons aussi un invité aujourd'hui avec nous, Gilles Sabatier du mouvement Ville en Transition. Bonjour Gilles.
Bonjour.
Et bonsoir, pardon.
Bonsoir plutôt.
Alors le thème ville en transition n'évoque peut-être pas à tout le monde quelque chose, mais nous pouvons peut-être l'introduire par une chanson pour bien comprendre ce qu'est le citoyen perdu dans la ville qui se sent parfois comme un arbre dans la ville. Maxime Le Forestier.
Comme un arbre dans la ville, je suis né dans le béton, coincé entre deux maisons, et du feu de mes brindilles, comme un arbre dans la ville.
Bonsoir, vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel 106.3, l'émission Mode d'emploi, émission des chômeurs des précaires, avec ce soir des militants d'Attaque qui est du journal Le Piaf, et avec ce soir notre invité Gilles Sabatier, qui va nous parler de
du
la...
thème ville en transition. Alors c'est plus qu'un thème, c'est un mouvement militant, bien sûr, mais qui est assez large, vu qu'il couvre des gens d'horizons divers et d'opinions politiques parfois diverses. Alors Gilles va nous expliquer un peu d'abord ce qu'est la démarche globale de ce mot « ville en transition ».
Oui, bien merci. Les villes en transition, donc c'est un mouvement qui est citoyen et qui vient d'Angleterre et qui existe maintenant un petit peu partout dans le monde. Les villes en transition partent d'un constat. Ce constat, c'est que le pétrole coûtera cher dans un certain nombre d'années, qu'on le veuille ou non. Le pétrole coûtera cher et notre vie, notre mode de vie changera radicalement. Alors par exemple au niveau des transports, au niveau de l'agriculture, au niveau même des vêtements, bref, notre mode de vie changera radicalement. Un petit peu après, un petit peu plus tard, il y a eu un nouveau constat qui est apparu, c'est le changement climatique, et d'autre part, un troisième constat, c'est l'effondrement économique. On peut voir ce qui se passe en Grèce en ce moment. Bon, tout ça n'est pas bien gai. On peut avoir différentes attitudes. Bon, soit tout de suite se suicider, soit l'attitude Claude Allègre, ben oui, mais la science réglera bien le problème un jour, il n'y a pas de problème, voilà. Autre attitude, ben grâce aux nanotechnologies, à la géo-ingénierie, etc., tout sera réglé et tout ira.
Il faut avoir la foi dans la science.
Voilà, c'est ça, c'est merveilleux, n'est-ce pas ?
Moi, j'ai plutôt les foi.
Voilà. Alors, autre attitude, c'est ben oui, notre mode de vie va changer radicalement. Bon, il faut en être conscient, il faut se préparer dès maintenant, de manière à subir le choc et à accepter, affronter le choc, quitte à après à rebondir vers, au besoin, un mode de vie un petit peu plus agréable que le mode de vie qu'on vit actuellement, parce que bon, pour beaucoup de personnes, on estime que notre mode de vie n'est pas formidable. Le fait d'affronter un choc et de rebondir après, c'est ce qu'on appelle la résilience. Le mot résilience est couramment utilisé dans les villes en transition.
Le mot résilience, on l'entend souvent en psychologie habituellement. Je crois que ça désigne plus ou moins le phénomène de pouvoir revenir à son état d'origine après un choc.
Alors, on peut revenir à son état d'origine, ou alors à un état, ou alors repartir de plus belle, presque dans un état meilleur qu'avant. Alors, ça s'applique en psychologie, ça s'applique aussi concernant les matériaux, ça s'applique aussi aux sociétés. Et donc, quand je parle de résilience, c'est les résiliences appliquées aux sociétés. Donc, il y a un choc psychologique, effectivement, et grâce à ce... lors de ce choc psychologique, le but, c'est d'essayer de rebondir. Donc le but, c'est que le monde, après ce choc, soit plus agréable. C'est faire un pas de côté. Il y a un film que j'aime beaucoup, c'est L'An 01. Voilà. Donc, et quand on voit L'An 01 et quand on regarde les villes en transition, on remarque beaucoup de connexions. Mais vous allez être déçus, les villes en transition, bon, qu'est-ce qu'on fait? Ben c'est très 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 modeste, hein. C'est l'encouragement d'alternatives concrètes.
Alors des alternatives concrètes, on va en parler tout à l'heure. Et auparavant, on voulait peut-être essayer de revenir sur l'origine de ce mouvement qui est né, je crois, en Angleterre.
Tout à fait. Alors, la personne à l'origine de ce mouvement s'appelle Rob Hopkins, était professeur de permaculture et est arrivé dans une ville du Devon, en Angleterre, vers 2006. Cette ville du Devon s'appelle Totnes, 8000 habitants, aucun rapport avec Paris, on en reparlera tout à l'heure. Et assez rapidement, avec d'autres personnes, il a réfléchi à la résilience post-pétrole. Alors, il se trouve que dans cette ville aussi, il y avait énormément d'associations sensibilisées à l'environnement, à l'écologie, etc. C'était vraiment le terreau parfait. Et donc, là, très rapidement, il a organisé une grande réunion. Je crois qu'il y avait plusieurs centaines de personnes lors de la première soirée, alors qu'il n'y a que 8000 habitants. Et ils ont organisé un forum ouvert. Ils ont créé des groupes de travail. Et un certain nombre de groupes... Il y a des groupes de travail assez improbables qui se sont créés. Il y avait par exemple dentiste et fin du pétrole. Alors ça devait être le dentiste du coin, mais c'est vrai que, lorsque le pétrole coûtera cher, lorsque l'énergie coûtera cher, c'est vrai que le matériel de dentiste, sera difficile à mettre en œuvre. Beaucoup de forums ouverts. Aussi des techniques, le mot anglais c'est visioning, on va dire vision en français, c'est-à-dire essayer de se projeter, par exemple en 2020, en 2030, essayer d'imaginer la vie que l'on souhaite d'une manière réaliste, pas faire de science-fiction, technologique, etc., mais essayer d'imaginer comment on sera, comment on ne veut pas être, et voilà, c'est une technique qui est souvent utilisée dans les villes en transition. Puis, ils ont réfléchi à la résilience post-pétrole au niveau agriculture, au niveau transport. Alors je prends des exemples. Une ville plutôt écolo va mettre des arbres. À la chanson de Maxime Le Forestier. Vont mettre des arbres dans une ville. Parce que c'est joli, il y a de l'ombre, etc. Dans une ville résiliente, on va plutôt mettre des noyers, des châtaigniers ou des arbres fruitiers pour pouvoir recueillir les fruits et pas uniquement avoir des arbres d'une manière décorative. Une ville plutôt écolo va instituer un recyclage centralisé. Lorsqu'on parle de résilience, on va plutôt mettre des composteurs. Voilà. Donc, beaucoup d'échanges de savoir aussi. Des dialogues avec les anciens, savoir à nouveau bricoler, à nouveau jardiner. Voilà, c'est tout le travail qui a été mené à Totnes. Ils ont produit des bouquins, ils ont produit des livres. Il y en a un qui a été traduit, il est dans mon sac, et pour les auditeurs qui ont l'image, je pourrais éventuellement tout à l'heure le montrer. C'est le manuel de la transition, alors qui est en vente en France, et qui est, c'est un gros pavé, et très intéressant, justement, sur la mise en œuvre de tout ce que je viens de dire. D'autre part, c'est la seule ville en transition à l'avoir fait. Ils ont travaillé sur un plan de décence énergétique, d'une manière théorique. Ils n'ont pas encore mis en œuvre. Mais ils se sont dit, à Totnes, en 2015, il faudra remplacer les parkings par des arbres fruitiers. En 2020, ils se sont posé des tas de questions intéressante, où chaque fois il faut choisir. Alors par exemple, quelque chose d'un petit peu anecdotique, il se trouve qu'à Totnes, c'est le sud de l'Angleterre, il y a quelques vignes. La question était de savoir est-ce qu'il faut cultiver des produits maraîchers, est-ce qu'il faut mettre de la vigne, ou bien est-ce que il faut continuer aussi à cultiver du houblon pour la bière. Bon, la conclusion, c'est que ils ont décidé de diminuer la culture de houblon, de supprimer la vigne et de s'orienter vers le maraîchage. Mais chaque fois, il faut choisir. Et bon, le bouquin est vraiment très très intéressant. Que dire d'autre ? Ils ont créé une monnaie locale, la livre de Totnes. Voilà grosso modo ce qu'a fait Totnes. Alors c'est assez décevant, je crois que quand on va à Totnes, on est assez déçu parce que tout ce que je viens de dire n'a pas encore été mis en œuvre. Mais il y a des centaines de personnes sur 8000 habitants qui travaillent ensemble, qui créent du lien social. Et le lien social, j'ai pas encore utilisé le mot, très important pour les villes en transition, et qui par la suite ont fait école.
Alors école, justement, on va prendre maintenant des exemples sur le sol français, et on va commencer par écouter une petite intervention due à l'association IGREN qui nous parle des villes en transition à Saint-Quentin en Yvelines.
Ygraine, mais son grain de sel.
Bonjour, je suis Lee Barré, d'origine américaine. C'est moi qui a initié la ville en transition ici à Saint-Quentin-en-Yvelines.
Je suis Martine Bonnet, je suis présidente de l'association Regain Nature qui a rejoint le mouvement Ville en transition sur Saint-Quentin-en-Yvelines. C'est un concept qui part du pic pétrolier et de la descente énergétique de nos ressources à venir et propose de se projeter d'ici 20 à 30 ans pour imaginer un nouveau mode de vie aussi bon possible, aussi doux possible pour chacun d'entre nous qui cherche une solution pour nous et nos enfants dans l'avenir.
C'est basé sur la permaculture, culture permanente. La permaculture est un moyen holistique de regarder le monde, en fait, prendre soin de la terre, prendre soin de l'être humain et aussi partager nos ressources, partager le surplus, prendre soin de l'avenir.
Il y a une notion, il me semble, très importante dans les villes en transition, c'est de rapprocher les sources de nourriture. Ça veut dire ne pas faire venir les fruits de l'autre bout de l'Europe, mais planter dans la ville notre source de nourriture.
Nous avons des projets sur les différents domaines. Le projet du vélo pour montrer que c'est mieux de déplacer par le vélo au lieu de prendre sa voiture. Nous avons le lundi sans viande. C'est la promotion d'un jour par semaine où on fait la recherche de les nouveaux modes culinaires.
Alors, l'intérêt d'une association de rejoindre le mouvement de transition, c'est d'y trouver des partenaires, des forces, d'y trouver un appui, une dynamique locale.
Il suffit d'avoir la volonté de présenter un projet, de participer à un projet, et là on est dans la ville en transition.
Pour plus d'informations, que chacun aille consulter notre site 51 en transition.
On vous attend nombreux et à bientôt.
Alors nous parlons du thème ville en transition dont on vient voir un exemple ici concret à Saint-Quentin en Yvelines. Et Gilles Sabatier, qui participe à ce mouvement ville en transition, va nous expliquer d'autres exemples de manière concrète maintenant, qui se passent même à Paris, même en banlieue parisienne.
Oui, d'abord j'étais très heureux d'entendre la voix de Lee Barrette qui fait un travail énorme à Saint-Quentin en transition. À Saint-Quentin en Yvelines, pardon. Les villes en transition se sont développées partout dans le monde. Je parlais de Totnes tout à l'heure, mais il y a plusieurs expériences en Angleterre. Il y en a aussi aux États-Unis. Il y en a en Allemagne, en Espagne, en Belgique, et il y en a en France. Donc, en France, il y a une centaine d'initiatives. Mais quelquefois, ce sont des initiatives extrêmement modestes. Ces initiatives consistent souvent, mais ce n'est pas du tout dévalorisant et péjoratif ce que je dis, mais consistent souvent uniquement en mettre en œuvre des jardins partagés et faire un certain nombre de conférences sur le pic du pétrole. Mais justement, c'est très bien, ça permet de diffuser l'information, C'est pas un terme qui est couramment utilisé dans le cadre des villes en transition, mais moi je pense que les villes en transition, c'est un mouvement d'éducation populaire, justement. Et voilà, donc il y a la première initiative en France, celle qui s'est développée le plus, n'est pas dans une ville. C'est pour ça qu'on parle aussi de territoire en transition. C'est à Trièves. Trièves, c'est près de Grenoble. C'est en milieu rural. Et ils font tout un travail, notamment sur les transports, sur le lien social. Voilà, donc Trièves, c'est vraiment le territoire historique en France. D'autre part, il y a plusieurs initiatives, notamment en région parisienne. Alors, vous avez entendu donc la voix d'une animatrice de Saint-Quentin en transition, qui est une ville qui est très très active. Il y a une autre ville en région parisienne qui est très active, c'est Sucy-en-Brie. Vous avez entendu ce que disait Eileen. En fait, Saint-Quentin en transition et les villes en transition ne créent pas une association de plus, mais travaillent avec des associations existantes et essaient de créer des projets communs aux différentes associations. Parce qu'il existe des associations qui font de la transition sans le savoir. Les AMAP, c'est de la transition. Les associations de vélo, c'est de la transition. Les échanges, le SEL, les échanges solidaires, c'est de la transition. Sans forcément avoir une vue post-pétrolier, mais peu importe. Et donc les initiatives qui se créent essaient de faire du lien entre ces associations, essaient de provoquer la création d'autres associations, de ce que j'appelle des alternatives locales. En France, alors souvent on me pose la question du contact avec les élus. C'est une question qui fait beaucoup débat au sein des villes en transition. J'ai dit tout à l'heure que c'était un mouvement citoyen, c'est-à-dire que c'est un mouvement qui est indépendant des partis politiques et qui s'implique pas ou peu dans la vie municipale, sauf lorsque on a besoin, je reprenais l'exemple de tout à l'heure, si on veut mettre des arbres fruitiers à la place du parking, bon là on est obligé de passer par la municipalité. Mais j'insiste sur le fait que c'est un mouvement citoyen. Un autre point important, c'est dont j'ai pas parlé lors de la première partie, c'est l'inclusivité. Alors l'inclusivité, c'est-à-dire que l'objectif, c'est que dans les villes en transition, les personnes qui participent, ce soient nos voisins, même s'ils n'ont pas les mêmes opinions politiques que nous. C'est pas un mouvement militant, c'est pas, je ne le classe pas dans les mouvements altermondialistes, puisqu'on est dans une radio attaque. Peu importe, enfin il y a des limites quand même, mais peu importe pour qui votent les gens. Je dis bien qu'il y a des limites, hein, mais on ne met pas du tout, l'appartenance politique ou la sensibilité des personnes en avant. C'est vraiment du travail hyper local.
Excuse-moi, oui. Mais ce que tu dis, c'est peut-être un petit peu antinomique parce que c'est une façon de créer une autre démocratie, c'est pas du tout apolitique. Oui. En fait, c'est une autre façon de faire de la politique, peut-être.
Alors, tout à fait d'accord avec toi, je n'aime pas du tout le mot apolitique. Pour moi, le mot apolitique, je le fuis. C'est de la politique. C'est apartisan, mais voilà, c'est apartisan. Mais pour. Je donne un exemple concret. Là. Si dans les mouvements, par exemple, je parle d'attaque, etc., il y a peu de personnes du MoDem, j'imagine. En revanche, si une personne est plutôt MoDem dans les villes en transition, ça ne gêne absolument pas. Et voilà, donc c'est vraiment l'aspect inclusif.
Le modem s'est dépassé pour Internet. Hein.
Voilà. Un point important aussi en France et qui n'existe pas en Angleterre, qui est une spécificité en France, je pense, c'est le mouvement de la décroissance. Et ce qui est intéressant, c'est le frottement entre les villes en transition et le mouvement de la décroissance, parce qu'on retrouve beaucoup de points communs, même si donc il y a des gens proches du mouvement de la décroissance dans les villes en transition. Et il y a aussi des personnes proches du modem, enfin qui ont des opinions
un petit peu moins anticapitalistes.
Voilà, nettement moins. Voilà, tu as trouvé la bonne expression, nettement moins anticapitaliste. Voilà, donc je voudrais parler un petit peu de ce qui se passe à Paris. Alors à Paris, c'est pas évident parce que c'est une métropole. J'avais insisté sur le fait que Totnes ne faisait que 8000 habitants. Mais c'est vrai qu'à Londres, dans le quartier de Brixton, il y a plusieurs initiatives de transition. À Paris, il y a différentes initiatives. Il y en a une dans le 15e. Paris 15 en transition, qui est vraiment très très modeste. On a créé une association qui encourage les immeubles qui ont des pelouses à les transformer en terrain cultivable. Voilà. Il y a dans d'autres. Alors dans le 18e, je pense que vous connaissez le jardin EcoBox. Autour du jardin EcoBox, il y a beaucoup de personnes qui travaillent autour de la transition. Et nous parlons. Nous nous parlons, les différentes initiatives très locales se retrouvent. On organise souvent des réunions publiques de sensibilisation à la transition. Et puis, en septembre dernier, nous avons lancé le Festival des Utopies Concrètes. Le Festival des Utopies Concrètes, c'est organisé par les différentes villes en transition, initiatives en transition. Et l'objectif, c'est de mettre en contact les différentes associations travaillant sur des alternatives locales. On a organisé durant 8 jours différentes activités. Par exemple, toute une journée, on a organisé un village associatif où les différentes associations pouvaient se retrouver. Chaque soir, on avait organisé chaque fois une soirée sur un thème différent, tel que les jardins partagés, l'agriculture urbaine, les hackerspaces, le recyclage, les monnaies locales, etc.
Alors, ceci étant, il y a parfois des problèmes par rapport à certaines réalités dans ces projets. Tu parlais de rendre des espaces cultivables au milieu des villes. Or, on s'est rendu compte, par exemple, que dans certaines villes au Canada où on faisait de la culture sur les toits, les carottes ou les navets produits sur les toits avaient une quantité de métaux lourds dedans à cause de la pollution atmosphérique.
Effectivement, c'est pas consommable.
Et donc, ça pose le problème, justement, des relations avec le politique et notamment les politiques urbaines en matière de circulation et de pollution urbaine.
Ben voilà. Tu penses comme moi. Non. Alors, effectivement, c'est vrai que qu'on cultive dans un endroit pollué. Ne pas oublier. Alors, je reviens aux villes en transition, à l'aspect post-pétrole. Le jour où il y aura moins de pétrole, il y aura moins de voitures. Alors, il est évident que, en attendant, il faut exiger, effectivement, que les politiques urbaines fassent en sorte qu'il y ait de moins en moins de voitures. Mais le jour où, rêvons un peu, le jour où il n'y aura plus de voitures et le pétrole sera trop cher, je reviens à l'an 01. Je ne sais pas si vous avez vu le film. Voilà, c'est un petit peu mon rêve.
C'est un petit peu la rupture qu'on peut tous souhaiter.
Voilà.
Et l'autre problème avec le politique, c'est peut-être aussi les règlements qui empêchent de faire certaines choses. Exemple, dans mon collège, j'ai voulu faire planter des arbres fruitiers pour que les gamins puissent manger des fruits, des vrais fruits et pas des fruits industriels. Il a fallu 3 ans et demi de combat avec le conseil général et l'administration du collège pour faire planter 6 arbres. Et on m'a bien prévenu que les fruits ne seraient pas consommés par les élèves parce que c'était pas réglementaire.
Alors, je vais faire de la publicité pour des amis qui sont justement proches des villes en transition, l'association des vergers urbains. Y a une association à Paris qui prône le développement des arbres et des arbres fruitiers. Parce que comme vous avez remarqué dans les jardins partagés, bon, il n'y a quasiment pas d'arbres et d'autres d'arbres fruitiers. Et quand vous allez dans les jardins publics, il n'y a quasiment pas d'arbres fruitiers. L'objectif, donc, c'est d'encourager cette expérience.
Alors, on pourrait espérer qu'un jour, il n'y aura plus de pétrole, donc on prendra le métro, et nos petits jardins parisiens sentiront bon le métropolitain. Jacques Dutronc.
C'était un petit jardin qui sentait bon le métropolitain. Qui sentait bon le bassin parisien. C'était un petit jardin au fond d'une cour à la chaussée d'Antin.
Bonsoir, vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel 106.3, l'émission Mode d'emploi, émission des chômeurs et des précaires, avec ce soir les membres de l'association Attaque et les journalistes du PIAF.
Et nous allons maintenant écouter Gaël qui va nous parler des accords bilatéraux qui concernent le Pérou
et la Colombie. Le Parlement européen a en effet ratifié en décembre un accord de libre-échange avec la Colombie et le Pérou. Alors, ce ne sont pas les États les plus infréquentables de la planète, mais il y règne une conception assez particulière des droits de l'homme. En Colombie, les exécutions extrajudiciaires, les assassinats de syndicalistes, les déplacements forcés de population, la torture, les disparitions font partie de la vie courante. Selon le rapport 2012 de Amnesty International, en 2011, 259 000 personnes ont été déplacées de force et 29 syndicalistes, au moins, ont été assassinés. Quant au Pérou, son dossier chez Amnesty est un peu moins lourd, mais sa spécialité, c'est de violer les droits des peuples indigènes. Tout cela n'a pas empêché l'Union européenne, fraîchement nobilisée pour sa contribution à la paix et à la défense des droits de l'homme, de signer un accord de libre-échange avec ces deux États. Le Parlement européen a même massivement ratifié cet accord le 11 décembre par 486 voix pour, contre 147 et 41 abstentions. L'idée de cet accord, c'est d'ouvrir les frontières à la circulation des marchandises, des services et des capitaux. Et ça risque d'être un jeu assez inégal. En effet, libre circulation des services, ça signifie que les multinationales européennes des services, qui sont très compétitives, vont pouvoir rafler des marchés publics en Amérique du Sud. L'eau, les déchets, les transports, les télécoms, les constructions. Et ce sera au détriment des petites entreprises locales qui seront mises en concurrence, une concurrence déséquilibrée, avec ces entreprises européennes. La libre circulation des marchandises, ça va profiter à l'agriculture européenne, qui est à la fois très productive et en plus subventionnée. Donc les marchés vont être envahis par des produits à prix cassé, notamment le lait, ce qui risque de déstabiliser l'agriculture paysanne colombienne et péruvienne, et de menacer la souveraineté alimentaire de ces pays. Enfin, dernière chose, la notion de libre circulation des capitaux. Dans cette notion, il y a une idée assez classique désormais, qui est celle de protection des investissements. C'est-à-dire que quand j'investis quelque part, je veux que mes profits soient garantis à vie, et qu'ils ne soient pas diminués parce que des Indiens se révolteraient ou réclameraient des RTT. Et donc ce genre de dispositif de protection des investissements est contenu dans l'accord entre l'Union européenne et la Colombie et le Pérou. Face à l'Union européenne, la seule force économique de la Colombie et du Pérou, c'est leur industrie minière. Mais c'est le type même d'industrie qui maintient un pays du Sud dans une situation de dépendance vis-à-vis du capitalisme du Nord. D'une part parce que la valeur ajoutée de ces industries minières est faible et que les gains sont très variables selon la fluctuation des cours mondiaux. D'autre part parce que cette industrie, elle est majoritairement contrôlée par des investisseurs européens. Et pour couronner le tout, ce sont les exploitations minières qui génèrent le plus de déplacements de populations indigènes et le plus de violations des droits des travailleurs. Donc ça laisse peu d'espoir d'amélioration du côté des droits de l'homme. Alors comme toujours, pour se donner bonne conscience, le texte de l'accord entre l'Europe et ces pays intègre des clauses de protection des droits de l'homme, des travailleurs et de l'environnement. Mais en réalité, ce sont plus des proclamations de principe qu'une protection réelle de ces droits, car il n'y a aucun dispositif contraignant, contrairement aux droits des investisseurs qui, eux, sont bien protégés. Alors un accord comme ça, on le combat forcément. Donc de nombreuses organisations syndicales, paysannes, indigènes, altermondialistes, écolos, de défense des droits de l'homme se sont mobilisées des deux côtés de l'Atlantique contre la signature de cet accord. Malheureusement, l'intérêt médiatique a été quasi nul, et c'est sans doute cette absence de projecteur qui a poussé autant d'élus sociodémocrates ou se disant tels au Parlement européen à soutenir un texte finalement insoutenable. Parmi les élus sociodémocrates, il y a les élus PS français, 5 ont voté pour, 2 ont voté contre et 5 se sont abstenus. Heureusement, il n'est pas trop tard pour agir, car l'accord, avant de pouvoir entrer en vigueur, doit d'abord être ratifié par chacun des 27 parlements nationaux de l'Union européenne. Alors interpellez votre député, surtout s'il se dit de gauche. Pour ça, vous trouverez les détails de cette campagne sur le site web de l'AITEC. AITEC, c'est A-I-T-E-C. Le site web, c'est hightech.réseau-ipam.org.
Et l'hightech que nous recevrons peut-être le mois prochain ou le mois d'après. Et par contre, une nouvelle tradition, c'est d'écouter un slam de Patrick qui s'appelle aujourd'hui « Planète à plat ».
À plat. À plat. Planète à plat. Qui roule sur sa jante. À plat. Comme une roue dégonflée, comme des gens déjantés, locataires d'une chambre percée. De l'air, planète sans tête, planète qui s'entête, planète qui s'embête, planète enflure, gonfle, gonfle, à plat, enfumée d'idées fumeuses, planète qui court, à plat, court, court, planète à plat ventre et à plate couture, à plat. Toi, qui veux ton content de temps pour que chacun soit content en étant de son temps, avalant le temps, dépassant le temps, le vomissant de temps en temps, presser le passé, à présent le présent, passer le présent et passer au suivant, futur, dès maintenant, demain, c'est à présent, à plat. Presser le passé à passer le présent, presser le présent à pousser le passé, presser le passé, presser, présent, passé, à plat, presser le présent, presser, passé, présent, à plat, presser, presser, tout près, presser, presser, compresser, niquer, niquer, commu, commu, niquer, aimer, désaimer, re-aimer, re-désaimer, aimer, re-désaimer, aimer votre chance, aimer votre banque, aimer votre banquier, aimez votre banque hier et aujourd'hui. Votre banque et sa banque route, banquez vos croûtes pour la route. Plat, plat, bien à plat, tu es un plat de choix. À plat, l'argent c'est tentant, l'argent c'est content, l'argent c'est tentant. Et si l'argent t'entête, tant que t'es en tête, c'est l'argent qui compte. Tant que t'es en compte, c'est l'argent qui t'aime, c'est l'argent content. Et puis au bout du compte, t'es content, 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 content. T'es content, content, rôle, t'es content, content, tube, t'es content, content, tôle, t'es content, content, caisse, t'es content, content, terre. L'argent c'est tentant, l'argent c'est content, l'argent c'est tentant. Et si l'argent t'entête, tant que t'es en tête, c'est l'argent qui compte. Tant que t'es en compte, c'est l'argent qui t'aime, c'est l'argent content. Et puis au bout du compte, t'es content, content, content. Plat, ah, plat, tu étais tenté, t'es contenté, contenté, contenté. T'es content, t'es content, t'es content, t'es content, t'es content, t'es content, t'es content.
Et on reprend sa respiration après ce slam pour écouter une petite brève de Sylvain qui rebondit sur l'actualité avec l'annonce de Free de vouloir mettre un boîtier contre la publicité. Et ça a donné à Sylvain à penser à la neutralité du web. Il va nous expliquer ce que c'est.
Oui, donc c'est pour revenir sur l'affaire qui oppose Free, donc l'opérateur internet Free et le géant Google en fait. Il se trouve que ces dernières années, on télécharge et on regarde de plus en plus de contenu. Et donc, ça nous demande d'élargir de plus en plus les autoroutes du web. Et Free étant un opérateur Internet, c'est lui qui s'occupe d'élargir ces autoroutes du web. Mais le problème, c'est que ça lui coûte très très cher. Et donc, il est parti voir Google et lui a demandé, mais monsieur Google, aidez-moi, s'il vous plaît, à participer à la construction de mon autoroute. Ce que Google lui a répondu, mais mon bon monsieur, je mets à disposition des voitures, je ne mets pas à disposition des pilotes, en fait. Et donc, en fait, ce qui se passe réellement, c'est que en refusant de faire augmenter, en fait, pour le particulier, le forfait Internet, Free se trouve aujourd'hui dans l'incapacité de continuer de faire fonctionner en fait son réseau Internet et donc demande à Google de financer la suite de son réseau. Et ce qui mène à penser en fait, c'est est-ce que finalement on n'arrive pas à la fin d'un modèle en fait sur les opérateurs privés. Est-ce que finalement un opérateur téléphonique, d'internet pardon, est capable en fait d'être rentable sur ce service?
D'être rentable et de proposer ce qui devient un nouveau droit, avoir un accès à Internet et à la culture et au militantisme et à la politique et à l'intérieur. Alors, c'est ce qui termine notre émission par l'agenda, bien entendu. Et l'agenda militant du mois de janvier commence dès demain samedi, n'est-ce pas Gaël ?
Oui, avec une grande rencontre nationale du collectif pour un audit citoyen de la dette publique. C'est à 10h, de 10h à 17h, à la salle ENAF de la Bourse du Travail, dans le 10e, à Paris.
Et l'après-midi même, donc demain, on enchaîne éventuellement avec une réunion débat à l'Agora de Nanterre pour que faire concrètement contre la finance. C'est le groupe local d'attaque Mont-Valérien qui invite François Ruffin pour en parler.
Dimanche 13 à 15h, Assemblée Générale des Indignés, démocratie réelle maintenant, dans un café près du métro Riquet, précisé sous peu. Et alors bien sûr, le 13, je vous invite à aller à la manif contre le mariage pour tous, surtout si vous avez des bombes lacrymogènes pour Civitas.
Le 14 janvier, René Passet, ancien président du conseil scientifique d'attaque, intervient au centre Pompidou à Beaubourg à 19h et interviendra sur l'économie immatérielle.
Mardi 15 janvier à 20h, réunion du collectif IDF de lutte contre l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. L'adresse est Le Transfo, 57 avenue de la République, Bagnolet, en Seine-Saint-Denis. Et en cas d'évacuation majeure ou d'expulsion sur la zone à défendre à Notre-Dame-des-Landes, nous appelons à un rassemblement le jour même à 18h30 au métro Belleville.
Si vous préférez les actions un peu moins musclées, vous pouvez aller faire la vigie du collectif santé et nucléaire le vendredi 18 janvier à partir de 9h et jusqu'à 17h qui essaye de dénoncer par sa présence permanente devant le ministère de la Santé les manipulations des organisations internationales au sujet des conséquences sanitaires de la pollution radioactive. Et si vous êtes toujours prêt à rester debout dans le froid, vous pouvez aller à Évry le vendredi 18 janvier toujours à 18h pour compléter la journée, ou faire le cercle de silence contre le traitement inhumain envers les sans-papiers. Pour tout renseignement, cercle-de-silence.evry@yahoo.fr.
Alors, le vendredi 18 janvier à 18h30, projection débat sur la dette. L'association Réminiscence propose une projection débat, film La dette de Nicolas Hubelmann et Sophie Mitrani. Pourquoi les caisses de l'État sont vides? Le forum, place du forum, Boissy-Saint-Léger, donc RER, Boissy-Saint-Léger.
Du 23 au 27 janvier, semaine d'action européenne, occupons les banques. Les différents comités locaux d'attaque, les différents collectifs pour un audit citoyen de la dette feront un certain nombre d'opérations. Plus d'informations sur le site d'attaque et sur celui du collectif pour un audit citoyen de la dette, auditcitoyen.org.
Les week-ends des 26-27 janvier et 2-3 février, les désobéissants, les clowns désobéissants, organiser stage d'entraînement à désobéissance. Plus de renseignements sur www.désobéir.net.
Et dernière annonce faite par Alex qui concerne le samedi 26 janvier.
Samedi 26 janvier à 11h, projection débat sous le bleu et le dernier chantier dans le cadre du festival Bobine Sociale, donc deux films. C'est au studio de l'Ermitage, 8 rue de l'Ermitage, métro Jourdain à Ménilmontant.
Et nous terminons l'émission. Nous recevions Gilles Sabatier du mouvement Ville en Transition et aussi d'Attaque. C'est pour ça qu'il nous parlait tout à l'heure de l'action Occupons les banques du 23 au 27 janvier prochain. Et nous remercions toute l'équipe, Jean-Marc, Patrick, Alex, Gaël, Sylvain et Claude à la technique. On termine en écoutant Néo Reinhardt nous jouer à la guitare, Le cimetière des éléphants.